Bienvenue à la troisième édition du congrès virtuel francophone de EFP. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une conférence intitulée « L'EFT au service des enfants et des parents ». Un enfant est comme une bombe émotionnelle prête à exploser à la moindre secousse. Si vous êtes parent, vous avez certainement assisté à des crises terribles de vos têtes blondes parce que la chaussure refuse de se mettre comme il a voulu, ou à une tristesse qui semble inconsolable parce que le papillon s'est envolé. L'EFT est une grande aide pour les grands qui savent parler, exprimer leurs émotions. Mais comment faire avec des petits? Quelles sont les subtilités? Comment faire quand l'enfant ne parle pas encore? Et que faire avec votre propre émotion d'adulte, de parent, face à des réactions qui semblent disproportionnées? La conférence de ce soir vous apportera des réponses, des trucs et des astuces pour tapoter avec des enfants et adolescents, et même avec des bébés encore in utero. L'experte qui va tout nous dévoiler sur le sujet est thérapeute énergétique et praticienne EFT depuis bientôt 7 ans. Elle est elle-même maman d'un garçon de 6 ans qu'elle présente comme son plus grand enseignant en matière d'EFT avec les enfants. Et elle nous prépare une petite fille attendue pour le mois de juillet. J'ai le grand plaisir d'accueillir Sabrina Genies. Bienvenue Sabrina.
Bonsoir Maria et bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent.
Merci à toi d'être là. Pourquoi fais-tu une différence avec l'EFT pour les enfants? Quelles sont les particularités de l'EFT auprès des enfants?
Eh bien, nous les adultes, nous avons accès à un vocabulaire étendu. Nous utilisons notre mental pour analyser ce que l'on ressent et pour verbaliser les choses. Les enfants, eux, n'ont pas accès à tout ce vocabulaire et à cette analyse. Ce sont des êtres purement émotionnels. Alors, si on regarde uniquement sur le plan physiologique, le cerveau préfrontal, qui est responsable, entre autres, de la capacité de contrôle des émotions, donc le cerveau préfrontal ne se développe que vers l'âge de 17-18 ans. Donc, il est tout à fait impossible pour un enfant de maîtriser le flot des émotions. L'enfant est intensément et profondément dans l'émotion qui le traverse. Je vais donner un exemple, et dans la conférence, il y aura comme ça beaucoup d'exemples concrets. Je me souviens de mon fils quand il avait 3 ans. Il était propre depuis quelques semaines. Et un jour, il a besoin d'aller aux toilettes, mais il a eu du mal à défaire son bouton de pantalon. Et quelques gouttes lui ont échappé. Ça a été une crise de larmes terrible, parce que pour lui, il avait fait dans son slip. Alors, si moi je regarde de l'extérieur, il n'y avait rien de grave ni d'important. Avec mon regard d'adulte, je pourrais être tentée de dire « Allez, calme-toi, ça ne sert à rien de pleurer pour ça, ce ne sont que quelques gouttes, il n'y a pas de quoi en faire un drame. » Mais ce n'est pas du tout ce que lui vivait, donc ce n'est pas ce que lui, l'enfant, ressent. Pour lui, c'est très grave ce qui s'est passé, en tout cas c'est ce qu'il exprime. Pour tapoter avec les enfants, il est essentiel de se mettre à leur niveau et de prendre ce qu'ils disent comme leur réalité à eux. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ont déjà l'habitude de tapoter, pour eux et avec des adultes, ils peuvent se dire, ben oui, avec tout le monde, il faut se mettre au niveau de l'autre et s'adapter à la réalité de l'autre. Et c'est vrai. Mais avec les enfants, c'est la forme qui va changer. Comme je le disais, les enfants n'ont pas accès au vocabulaire que nous on a. Ils ressentent des choses, mais ils ne savent souvent pas mettre des mots dessus. Et ceci dit, c'est le cas de certains adultes aussi. Alors l'adaptation avec les enfants, elle se fait essentiellement sur 2 points. Il y a la façon de tapoter, et le moment où ça va se faire, et puis les phrases clés. Et l'imagination, l'imaginaire, joue un rôle prépondérant aussi chez les petits. Et l'usage de métaphores est d'une grande aide, c'est même la trousse de secours absolue.
D'accord. Tu peux en dire un peu plus sur les métaphores? Tu peux donner des exemples, comment les utiliser avec les enfants?
Donc une métaphore, c'est une image qui permet de parler de ce qui est ressenti. Par exemple, pour un enfant qui a mal au ventre, il pourrait dire « j'ai un sanglier dans le ventre ». Ou bien, cette tristesse que je ressens, c'est comme une pelote de laine très serrée là dans mon cœur. Donc c'est quelque chose qui représente ce qui est ressenti. Et les images ou les métaphores que donnent les enfants sont parfois très très surprenantes. Et ça dépasse notre entendement en nous d'adultes qui résonne avec le mental. Alors qu'est-ce qu'on fait avec une métaphore pareille, comme j'ai un sanglier dans le ventre? La seule chose à faire, c'est d'accueillir la métaphore. Et donc, le cerveau de l'enfant lui envoie une image et il sait très bien ce qu'il fait. Et ça marche pareil avec les adultes. C'est le cerveau de l'enfant qui va faire le lien entre l'image envoyée et ce qui est ressenti. La plupart du temps, c'est pas nécessaire de chercher à décoder l'image, ce que, en tant qu'adulte, on pourrait être tenté de faire.
D'accord.
Mais franchement, c'est pas nécessaire. Retenez que le cerveau sait ce qu'il envoie comme image. Et si une autre compréhension est nécessaire, ben l'info arrivera. Donc soit l'enfant pourra parler de ce qu'il y a derrière l'image, parce qu'une fois qu'on aura tapoté sur l'image, ben l'accès à la véritable, je vais dire, sensation ou à l'émotion qui est là va arriver. Ou alors le parent qui accompagne l'enfant fera le lien entre l'image et ce qui se passe. Mais à nouveau, c'est pas nécessaire. Donc, l'EFT encore avec les enfants et encore plus qu'avec les adultes invite au lâcher prise. Mmh. Et donc, si je reprends l'idée du sanglier dans le ventre, eh bien, on va jouer avec la métaphore. Donc, c'est suivre le fil de l'enfant. Donc, on peut demander ce que fait le sanglier, où il est, est-ce que c'est un mâle ou une femelle. On peut inviter l'enfant à trouver une solution pour que le sanglier s'en aille. Alors, il peut faire du bruit. Il peut chanter, il peut taper des pieds, donc il peut attirer le sanglier avec des légumes dans la forêt. Je ne sais pas. On peut vraiment se lâcher et suivre ce que dit l'enfant.
Oui.
Alors, pour nous adultes, ça ne ressemble à rien. Ça n'a pas de sens. Mais pour l'enfant, vous rentrez dans son jeu et dans l'émotion qui est là. Et chez les enfants, ça va très très vite. Ils vous diront, oui, c'est ok, c'est bon. Plus mal au ventre, j'ai le sanglier parqué.
Oui. Alors, tu disais que la différence est un peu dans la forme. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail comment tapoter concrètement avec les enfants?
Je vais faire une distinction en fonction de l'âge et puis on verra le type de tapping.
D'accord, parfait.
Chez les tout petits, je pense notamment aux bébés et aux petits de moins d'un an, dont les os du crâne ne sont pas encore solidifiés, on va pas vraiment tapoter, ça va être plus un effleurement des points. Donc on peut juste, avec beaucoup de douceur, passer sur les différents points de l'enfant sans faire ce mouvement de tapotement. Donc quand on passe sur les points, et on le fait d'ailleurs parfois avec les adultes, on active les points et ça suffit. Chez les enfants qui sont en âge de se tapoter, donc qui peuvent coordonner leurs mouvements, il y a plusieurs façons. Soit ils vont se tapoter eux-mêmes, ça dépend de ce qu'ils ont envie. Soit l'adulte va tapoter sur eux en leur faisant raconter ce qui se passe. Ou encore, l'enfant peut tapoter sur une poupée ou un nounours, donc un objet qui va faire transition entre ce que lui, il vit et le mouvement de tapotement. Mm-hmm. Par exemple, mon fils, maintenant il a 6 ans, il est en âge de se tapoter, mais généralement il préfère encore que je le tapote.
Oui, ça peut être aussi un moment avec maman qui devient assez particulier. C'est ce qui se passe avec mes enfants aussi. Ils préfèrent que ce soit moi.
Ah ben voilà, donc avec la maman, avec le parent, généralement l'enfant aime être tapoté. Maintenant ça dépend très fort du caractère de l'enfant. Je sais qu'en consultation, en général, les enfants préfèrent se tapoter eux-mêmes, par exemple.
Oui.
Les adolescents, ça c'est très clair, ils veulent faire eux-mêmes. Et chez les enfants plus petits, je dirais en dessous de 10 ans, ou même 5-6 ans, en général, ils aiment faire eux-mêmes. Au-delà de l'EFT, alors il y a tout ce contact de toucher et d'accueillir ce qui est là, et d'être touché physiquement au moment où le parent accueille ce qui est là.
Oui.
Ça c'est vraiment à suivre au niveau de l'instinct, en fonction de l'enfant, en fonction du moment, et en fonction aussi de l'émotion qui est là.
Oui.
J'ai déjà remarqué, quand c'est de la tristesse, quand c'est de la mélancolie, généralement l'enfant aime être touché. C'est une façon aussi de le consoler, plutôt que
oui,
de le prendre dans nos bras et de le bercer, il y a ce mouvement de tapotement. Mais les enfants en colère, dans la frustration, dans la rage, dans « je suis pas content », ils veulent pas se laisser tapoter à ce moment-là. Parce que ça ne rentre pas dans leur bulle à ce moment-là.
Oui, ça peut même devenir une agression de plus.
Oui, tout à fait. Et donc, ils ne sont pas en état à ce moment-là de recevoir un tapotement. Donc voilà, suivez votre instinct par rapport à ça. Et demandez à l'enfant. Les enfants, même très petits, savent dire ou montrer s'ils sont OK ou pas avec les tapotements.
Oui. Et pour les adolescents?
Pour les adolescents, moi je dirais, là spontanément, je leur dis de tapoter sur eux-mêmes. Parce que les adolescents sont dans l'autonomie, moi je sais faire et je suis grand avant l'heure. Mais de nouveau, si c'est une forte émotion, l'adolescent vous semble quelque part dépassé ou submergé par l'émotion qui est là, vous pouvez toujours proposer, demander, est-ce que tu serais OK si je tapote sur toi? Est-ce que je peux approcher et te toucher? Et il va dire oui ou non. Voilà, en sachant que c'est à respecter. Chez l'adolescent, le lien affectif est différent. Donc il y a d'autres enjeux que chez les tout-petits.
Oui.
Les adolescents sont plus en rébellion par rapport aux adultes. Et donc, en tout cas, la majorité, sont moins en recherche de ce contact physique.
Oui. Et le challenge sera plutôt d'établir l'alliance avec un adolescent qui est peut-être sur le défensif.
Oui, même si l'adolescent en a besoin, il aura du mal à le reconnaître parfois. Même si ça lui ferait du bien d'être pris dans les bras ou que le parent ou l'adulte le touche, ne fût-ce que par les tapotements, et parfois les adolescents ont du mal à le reconnaître parce que c'est associé au petit, quoi. Moi, je suis plus un petit, j'ai besoin de mon espace. Donc, là aussi, c'est à suivre en fonction du tempérament et de ce que montre l'adolescent et de ce qu'il dit.
Oui.
Ce qui va changer, c'est le type de tapping. Soit on va être dans un tapping classique, c'est-à-dire la formule, ce qui commence sur le point karaté, même si j'ai de la colère, par exemple, je m'aime comme je m'accepte totalement et profondément. Donc, on garde la formule classique, même si, et puis on verbalise l'émotion. On peut aussi, avec les enfants, et généralement, moi c'est ce qui se passe soit avec mon fils ou avec les enfants qui viennent, c'est tapoter directement sur les points de la ronde en parlant avec l'enfant. Parce que quand l'enfant raconte quelque chose, il est directement connecté à ce qu'il vit. Et souvent, ça suffit à dissoudre l'émotion. Donc dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de formuler des phrases spécifiques ou de passer par le point karaté et la formule même si. Donc ça, je vous invite à le tester. C'est quelque chose chez l'enfant qui va très très vite. Parfois, en une ronde, c'est fait, c'est terminé, l'émotion qui était là est complètement dissoute. Je vais donner un exemple. C'était l'été passé, donc mon fils avait à peu près 5 ans. Nous étions dans une plaine de jeu, donc où il ne connaissait personne, mais vous connaissez les enfants. Au bout de 10 minutes, il s'était fait plein de copains. Et moi, je l'ai regardé jouer de loin. Et il jouait avec des fusils en plastique. Et à un moment donné, Hugo revient avec deux autres enfants, deux autres garçons, dont un en larmes et avec la lèvre en sang. Donc d'abord, je regarde s'il n'y a rien de grave, parce que ça saignait bien, mais c'est un endroit qui saigne assez vite. Et puis j'entends Hugo qui dit « Viens près de ma mère, ça va aller, elle va t'aider. » Et je demande à l'enfant si je peux toucher sa tête. Il me fait signe que oui. Et j'ai commencé à passer sur ses points, donc j'ai pas tapoté, je suis juste passé avec le bout de mes doigts sur chacun de ses points et je lui dis « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a raconté que tel enfant lui avait mis le fusil sur la lèvre et ça a saigné. J'ai dit « Ok, tu as eu peur ou tu as eu mal ?»« Ah, ben j'ai eu peur. » J'ai dit « Ok, et maintenant ?»« Ah non, maintenant ça va. Si tu es prêt pour aller jouer, je reste encore un peu près de vous. » Ok. Donc j'ai fait même pas deux rondes. Et c'était terminé. Il ne saignait plus et l'émotion était passée. Et donc après, ils sont retournés jouer. 10 minutes après, c'est mon fils qui vient en pleurant. « Maman !» La même chose, la lèvre en sang. Je dis « Bon, je regarde, tout va bien, rien de grave. » Et je commence à le tapoter. Et là, c'était vraiment flagrant. Je dis « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Bon, il me raconte. Et puis je dis « T'as eu peur ou t'as eu mal ?» Parce que souvent, c'est ça, hein. Ah ben non, lui il avait eu mal, mais pas peur. Bon. Et alors, son menton tremblotait encore comme s'il voulait pleurer. Mais le reste de sa tête était déjà tourné vers le reste de la plaine de jeu pour regarder, comme s'il voulait déjà partir jouer. Je dis, oui. Oh, c'est ok maintenant. Ah oui, c'est bon, maman. Et hop, il est reparti.
Ouais.
Donc voilà, chez les enfants, ça va aussi vite que ça.
D'accord, juste en racontant ce qui s'est passé.
Oui, juste dans l'instant.
Mm-hmm.
Alors, on peut aussi dire les phrases et l'enfant répète. Donc, on va proposer des phrases et c'est l'enfant qui répète comme on le ferait avec des adultes. Et les enfants sont assez cash. Donc, si vous êtes à côté de la plaque, si ce que vous dites n'est pas tout à fait juste, ils vont vous le dire. Non, c'est pas ça, tu te trompes, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Ou... Donc, voilà, c'est juste un réajustement.
Mm-hmm.
On peut aussi répéter les phrases de l'enfant. C'est-à-dire qu'on initie le mouvement, hein, on dit une ou deux phrases, et puis c'est l'enfant qui va dire ce qui se passe quand il sait parler, et c'est l'adulte qui répète. Et ça, en général, les enfants adorent, et parfois, à ce moment-là, ils se lâchent beaucoup plus.
Oui.
Parce que, pour une fois, dans leur vie, c'est l'adulte qui les imite ou qui répète ce qu'eux disent, alors que d'habitude, c'est l'inverse.
Mm-hmm. Oui.
Donc ça marche bien aussi. Et avec les adolescents aussi.
D'accord.
C'est une formule intéressante.
Oui.
Et ce qui est très important, autant chez les petits que chez les adolescents, c'est de garder le même vocabulaire qu'eux.
Oui.
D'essayer de vraiment faire du mimétisme avec leur vocabulaire.
Hein. Oui.
Les adolescents...
De plus, se mettre à leur niveau.
Oui, c'est ça.
Mm-hmm.
Les adolescents ont parfois des expressions assez trash, hein,
mm-hmm.
qui peuvent parfois choquer les adultes, mais c'est leur mot, et donc c'est important de les répéter.
Oui.
En tout cas, au moment du tapotement. Hein.
Oui.
En sachant que dans les tapotements, tout peut être dit.
D'accord. Et comment faire si l'enfant ne parle pas? Je pense au bébé ou peut-être même avant.
Oui. Alors, sur les bébés, les bébés qui ne parlent pas. Et chez les prématurés, on va effleurer les poings, donc encore avec plus de douceur que chez les petits enfants. Et l'adulte va verbaliser ce qu'il voit, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent de la situation ou ce qu'il en sait. Par exemple, je pourrais dire, en passant sur les poings du bébé, j'entends que tu pleures beaucoup, tu es tout rouge, et rien ne semble t'apaiser. Donc c'est moi qui dis ce que je vois en tapotant, enfin, en touchant les poings de l'enfant. On peut aussi tapoter directement sur soi pour un bébé ou un prématuré. Je ne vais pas en dire plus ici parce que l'exercice de la fin de la conférence sera consacré à ça.
D'accord.
Et on peut aussi imaginer les tapotements sur l'enfant. Par exemple, pour les prématurés qu'on ne peut pas toucher, hein, pour les grands prématurés, ou pour un enfant qui n'est pas près de nous, alors on imagine l'enfant devant nous ou sur ses genoux et on va faire les mouvements dans le vide, en fait, comme si l'enfant était devant nous en exprimant ce que l'on pense, ce que l'on voit, ce que l'on sait de la situation. Et là aussi, si on a l'occasion à la fin de la conférence, on fera un exercice,
mm-hmm.
un exemple par rapport à ça.
D'accord.
Donc, voilà, chez les tout-petits, c'est des effleurements, des poings, et c'est l'adulte qui va verbaliser ce qu'il voit, ce qu'il pense de la situation. Et il peut émettre des hypothèses, voilà. Hein, je ne sais pas ce que tu as, tu as de la fièvre, ou peut-être tu as chaud, peut-être tu as faim, je ne sais pas ce qu'il y a, mais voilà ce que je vois.
Mm-hmm.
Simplement. Et ça marche assez bien chez les enfants.
Oui. Et pendant la grossesse, est-ce que c'est possible de tapoter, pas sur, mais pour le bébé qui est encore dans le ventre?
Oui, bien sûr. On peut tapoter en imaginant l'enfant. Et là, de nouveau, on va imaginer des effleurements. Alors, quand vous imaginez l'enfant qui est dans le ventre, que ce soit votre ventre ou le ventre d'une maman, vous allez... Imaginez l'enfant à votre sauce, c'est-à-dire vous pouvez très bien imaginer l'enfant un bébé formé, hein, deux bras, des mains, des jambes, la tête et tout, même si le bébé n'a encore qu'un mois ou deux de gestation par exemple. Ça n'a pas d'importance. prenez juste l'image qui est la vôtre. Et si c'est un bébé qui a quelques semaines de gestation, donc c'est encore un fœtus, ou même quelques jours, ben vous pouvez très bien imaginer tapoter sur un amas de cellules. C'est mm-hmm. bon aussi. Tout est dans l'intention. Mm-hmm. Et là, c'est pareil. On va imaginer qu'on tapote sur ce bébé en pleine croissance et verbaliser ce qui se passe. Par exemple, apparemment, tu ne vas pas bien. Ton rythme cardiaque montre que quelque chose n'est pas OK pour toi. Mais je suis là. Et même si j'ai un peu peur, j'ai confiance en toi. Donc, on peut à la fois verbaliser ce qu'on sait de la situation et dire ses émotions à soi et rassurer cet enfant. Maintenant, si c'est la maman qui vit beaucoup d'émotions, elle peut se tapoter en parlant à son bébé. Je vais donner un exemple de ma grossesse actuelle.
Oui.
Donc le début de cette grossesse a été assez difficile. J'ai eu beaucoup de nausées et je me sentais très ambivalente. Certains jours, j'étais heureuse d'être enceinte et d'autres jours, j'aurais voulu que cette grossesse s'arrête. Et je me suis tapotée en parlant à mon bébé et voici à peu près ce que j'ai dit. En me tapotant, j'imaginais que je lui parlais et je lui disais « Écoute, j'en ai marre des nausées. Je voudrais que ça s'arrête. Je suis désolée. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être enceinte. Pas envie que tu sois là à l'intérieur de moi. » Et c'est chez moi, et je m'en occupe. Ça n'a rien à voir avec toi et avec qui tu es, mais c'est chez moi. Je suis désolée que tu sentes tout ça. Je fais ce que je peux. Donc ça, c'est ce que j'ai dit en me tapotant. Alors, c'est très fort, cette ambivalence mm-hmm. chez les femmes enceintes, peut-être que ça va réveiller beaucoup de choses chez les personnes qui nous écoutent. Alors, si c'est déjà le cas, je vous invite à vous tapoter.
Oui, bien sûr.
Pendant que vous écoutez.
Oui.
Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Et puis, j'ai imaginé mon bébé. Et pendant que j'étais en train de le tapoter, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que c'était une petite fille, j'ai verbalisé ce que j'imaginais que ce bébé pouvait ressentir. Et j'ai dit, voilà, je suis en me tapotant. En imaginant que je le tapotais, j'ai dit, je suis bébé. Je sens que maman est fâchée et fatiguée. Pas contente, maman. Pas contente d'avoir des nausées. Elle voudrait que je ne sois pas là. Mais en même temps, elle me parle et elle me dit qu'elle s'en occupe, que c'est pas à cause de moi. Mmh. Alors ok, je vais m'occuper de moi et elle s'occupe de nous deux. Voilà, c'est un exemple. Alors ça peut paraître bizarre si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de tapotement. Mais si vous êtes enceinte ou si vous accompagnez des femmes enceintes, je vous invite à tester cela. Mmh. C'est très puissant pour la maman et ça peut être pour le papa aussi.
Oui.
De pouvoir verbaliser son vécu, de pouvoir dire ce qui est là, parce que Dieu sait que pendant une grossesse, il y a des émotions qui peuvent être très contradictoires.
Oui.
C'est important de pouvoir les dire, de pouvoir les dire à son enfant, et de lui dire qu'il n'a pas à se charger de cela.
Oui, parce que ce bébé qui vit en nous, c'est sûr et c'est établi qu'il capte nos émotions à nous.
Donc, absolument.
C'est une excellente idée de faire la part des choses et de dire que ça, c'est à moi. Tu le vois passer, tu le sens, mais ne t'en fais pas, c'est pour moi.
Absolument.
Oui.
Ça, c'est vraiment fondamental. C'est même si vous ne tapotez pas, c'est au-delà de l'EFT, c'est tout ce qui vous appartient à vous en tant qu'adulte, et j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard dans la conférence, c'est chez vous. Et il y a une distinction à faire entre ce qui est chez vous et ce qui appartient à l'enfant. L'enfant, in utero, son seul job, c'est de grandir et de se construire. Ça se fait même au-delà de vous. La maman, elle est juste l'autel. C'est une formule all-inclusive. Elle est disponible 24 heures sur 24, mais globalement, elle ne fait pas grand-chose. J'exagère un peu, hein, mais si je schématise, son corps s'adapte et fait de la place. Donc ça, c'est le gros du travail de la maman. Mais tout le reste, c'est l'enfant qui le fait.
Oui.
À partir de deux cellules qui se sont rencontrées et choisies, tout est déjà là et va se construire. C'est l'enfant qui fait son job. Ça se construit tout seul.
Mmh.
Et le corps de la maman s'adapte. Mais ça s'adapte avec un flot d'hormones incroyable et des émotions et des peurs archaïques qui remontent. Et donc, pouvoir dire à son enfant, voilà, j'ai pas envie que tu sois là aujourd'hui. Ou bien, si c'était une grossesse pas désirée, J'ai pas envie que tu sois là tout court. Mais en même temps, je fais le choix de te garder. Et ça, c'est chez moi, c'est pouvoir dire, c'est chez moi, je suis grande et je m'en occupe.
Oui, et il me reste encore quelques mois pour m'habituer à l'idée, et quand on se rencontre, ce sera réglé.
Oui, et alors cette notion de, c'est pas à cause de toi, c'est pas par rapport à qui tu es, c'est chez moi que ça réveille. Et de pouvoir le dire, c'est déjà important, et si vous pouvez le dire en tapotant, vous faites du bien à vous, et à votre enfant aussi. Et surtout. Voilà.
D'accord. Alors, revenons aux phrases à utiliser avec les enfants.
Oui. Alors, dans la formule classique, on dit « je m'aime et je m'accepte totalement et profondément ». Avec les enfants, on va plutôt simplifier, soit on va dire « je m'aime » tout court, ou « je m'aime comme je suis », ou « je suis une chouette petite fille » ou « un chouette petit gars ». Donc c'est vraiment prendre de nouveau les expressions des enfants. Alors, les enfants, en tout cas les petits, se construisent sous le regard des parents, des adultes, mais surtout des parents. Et donc, dans les tapotements, on peut introduire des phrases comme « papa et maman m'aiment comme je suis ». C'est très important et c'est apaisant et réparateur pour l'enfant. Il peut entendre que il peut exprimer quelque chose, ressentir une émotion, et en même temps, papa et maman l'aiment. Oui. Ou, si vous êtes en famille monoparentale, voilà, maman t'aime comme tu es. Maman m'aime comme je suis. Ça dépend dans le contexte dans lequel ça se fait. Mais faire référence à l'amour de l'adulte, c'est important. Une phrase, et ça vaut pour les adultes aussi, c'est de dire c'est ok. Ça veut dire c'est ok de ressentir tout ce que tu ressens. Ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec le comportement, mais par rapport à ce qui est exprimé, c'est ok de l'exprimer, de le ressentir. On peut faire aussi référence à des héros de dessins animés, de films, et dire même si j'ai peur d'aller dans ce nouveau stage, ben je suis le Harry Potter de ma classe. Je suis le génie de la lampe.
Oui.
Si on parle d'Aladin, donc c'est prendre des héros de qui sont bien connus par l'enfant et qui parlent pour eux. Mmh. Une autre phrase. C'est « je fais du mieux que je peux ». C'est rassurer l'enfant sur ses compétences, sur le fait que, ben voilà, même s'il se trompe, même s'il fait des erreurs, même s'il fait des bêtises, il fait du mieux qu'il peut. C'est aussi, apaisant. Une autre notion, c'est une autre phrase, c'est de dire « parfois les grands font des erreurs ». C'est de donner cette idée que papa et maman, et l'adulte en général, n'a pas toujours toutes les réponses et ne détient pas la vérité. Et que parfois, les adultes aussi se trompent ou font des bêtises. Alors, tout dépend du contexte, évidemment. Dans un cas d'inceste, par exemple, il est évident qu'on ne va pas dire que que c'est pas grave, que l'adulte s'est trompé.
En cas d'injustice avec un petit frère, une petite sœur, peut-être que ça peut
par s'adapter. Exemple, ou bien si je me mets en colère et que c'est disproportionné par rapport à ce qu'a fait l'enfant, mais parce que juste moi, à ce moment-là, j'étais déjà plus fatiguée ou énervée par autre chose et que je m'en rends compte, je peux le dire, voilà. Dire ok, excuse-moi, là ma réaction était trop forte par rapport à ce qui s'est passé, je suis désolée, même si ça ne change rien au fait que je suis pas d'accord avec ce que tu as fait, mais ma réaction était trop forte, et voilà. Et parfois une maman ça se met en colère un peu trop fort, ou si vous vous êtes trompé, vous vous rendez compte, comme tu dis, avec un petit frère ou une petite sœur, que finalement vous n'avez pas sanctionné ou puni le le fautif ou que vous vous êtes trompé dans ce que vous avez dit, ben, c'est de reconnaître, quoi. Ah ben oui, je me suis trompé. Parfois, ça arrive aussi. Hein. Mm-hmm. C'est de pouvoir le reconnaître. Mm-hmm. Alors, une phrase aussi, c'est de dire, je me souviens que je sais faire ceci, par exemple. Je me souviens que je sais faire mes lacets, je me souviens que je peux apprendre une poésie par cœur. Donc, c'est ramener l'enfant à ce qu'il sait faire. Mm-hmm. Donc, à ses compétences qu'il a déjà acquises.
Oui, à une situation où il a eu confiance en lui.
Oui, voilà. Donc, c'est de, à la fois, accueillir ses peurs, ses craintes, ce qui ne va pas, et à la fois le rebrancher quelque part sur ce qui va bien déjà, pour qu'il ait les deux côtés. Il ne soit pas que dans le « oh, j'y arriverai pas ». Une autre phrase, c'est « papa et maman sont fiers de moi ». Un peu dans l'idée de « papa et maman m'aiment comme je suis », c'est « papa et maman sont fiers de moi ». Hein, c'est de nourrir l'enfant de cet amour dont il a besoin. Une autre formulation, j'ai envie de dire, une autre phrase, c'est « et si tout allait bien se passer ?» Le « et si », ça ouvre, et c'est valable pour les adultes aussi, je pense que j'en avais parlé l'année passée, ce « et si » ouvre des nouveaux espaces sans obliger l'enfant à opter pour une solution. C'est-à-dire que il est en train de vous raconter qu'il n'y arrivera jamais, que c'est trop dur, qu'il a peur de ne plus se souvenir de comment on fait des calculs, par exemple. Lui dire « et si tout allait bien se passer ?» c'est juste suggérer au cerveau que ça pourrait se passer autrement que ce qu'il imagine.
Oui.
Et donc, vous n'allez pas lui dire « mais si, allez, te tracasse pas, ça va bien aller, bon, je sais que ça va aller ». Ça ne l'aide pas en général. Mm-hmm. Et parfois, ça crée même encore plus de résistance, parce que lui est en train de vous dire « ça ne va pas du tout aller », pour lui, c'est la fin du monde, et c'est ce qu'il ressent, donc pour lui, c'est sa vérité, c'est juste. Et d'un autre côté, vous lui dites « mais si, tout va bien se passer ».
Oui.
Ben non, il peut difficilement vous entendre.
Mm.
Que si vous juste lui suggérez « et si tout allait bien se passer ?»« Et si tu allais t'en souvenir ?»« Et si ça allait aller ?» C'est juste une proposition.
Oui, c'est une grande ouverture. Oui.
C'est une grande ouverture. Et il la prend ou pas, et généralement, le cerveau la prend. Et donc, l'enfant, ça fait son chemin. Donc, ce « et si », c'est juste une suggestion. Autre chose aussi, c'est de nommer les contraires. Parfois, les enfants ont du mal à choisir. Ils veulent aller jouer. Et un enfant qui a envie d'aller jouer dehors et en même temps, il veut faire un puzzle et ça, c'est, il sait que c'est à l'intérieur. Mais il veut faire les deux en même temps. Eh bien, c'est de le dire, voilà. J'ai envie d'aller dehors et en même temps, je voudrais pouvoir faire le puzzle. Et je sais pas quoi choisir. C'est de nommer les deux. Ou bien, j'ai envie d'aller de plonger dans la piscine et j'ai peur en même temps.
Mmh.
Donc, nommer les contraires, parce qu'ils sont là, ils font partie de,
voilà,
de la nature humaine. Hein. C'est comme les côtés d'une pile. Pour que la pile soit complète, il faut un côté positif et un côté négatif. Et ben, dans les émotions, souvent, c'est pareil.
Mmh.
Quelle autre chose aussi d'important, et c'est, j'ai envie de dire, au-delà même de l'EFT, c'est de remettre chacun à sa place. C'est-à-dire de pouvoir dire à certains moments « je suis la grande et toi tu es le petit ». C'est parce que parfois, beaucoup d'enfants ont tendance à se charger des émotions des grands,
oui,
de leurs parents notamment.
Mm-hmm.
Donc de prendre sur eux des choses qui ne leur appartiennent pas. Je vais donner un exemple. Hugo devait avoir 4 ans, quelque chose comme ça. Il était encore assez petit. Et un jour, j'étais dans la salle de bain en train de pleurer. Je ne sais plus ce qui se passait, mais j'avais beaucoup de tristesse. Il est arrivé dans la salle de bain. Il a commencé à me tapoter sur le visage en disant « Maman, ça va aller, tapote. La tristesse est triste. » Et je lui ai dit, « Ah oui, ok, je vais tapoter. Merci, mon petit loup. » Mais c'est vrai, j'ai de la tristesse, et ça me fait du bien de pleurer, mais c'est chez moi et je m'en occupe. Tu ne dois pas, toi tu es le petit, tu ne dois pas t'occuper de moi. C'est moi qui m'en occupe. C'est vraiment pour décharger l'enfant de ce qu'il ne lui appartient pas.
Oui.
Ça, c'est une notion importante.
Oui, tout à fait. Et là, c'était flagrant, mais souvent, ça peut être plus subtil aussi. Donc, oui, c'est peut-être une règle de base à rappeler régulièrement, effectivement. En tapotant, tous ensemble.
En tapotant au-delà de l'EFT, mais c'est clairement en tapotant, c'est que vous avez, en tant qu'adulte, vos émotions, vos sensations, votre vécu, et l'enfant n'a pas c'est pas son rôle de vous épauler, de vous consoler, mais par contre, il peut entendre qu'effectivement, vous êtes triste, ou vous avez de la colère, ou vous avez peur de quelque chose, sans forcément devoir vous justifier ou entrer dans les détails de ce qui vous arrive, mais juste que l'enfant puisse entendre, oui, c'est vrai. Pour le moment, j'ai beaucoup de colère ou, voilà, je me tracasse pour ça, mais je suis grand et je m'en occupe. Mm. C'est pas ton job de t'occuper de moi. C'est l'inverse.
Oui.
C'est très important. Parce qu'on ne s'imagine pas de tout ce qu'un enfant peut prendre sur lui.
Oui. Ce sont des éponges qui captent tout et ils ont tendance à se dire « Ah, ça doit être à cause de moi ».
Oui, voilà.
C'est bien de remettre les choses en place, effectivement. Oui. Et à quel moment tapoter, selon ton expérience, avec les enfants?
Alors ça, just in time, comme j'ai dit, c'est-à-dire au moment où il se passe quelque chose, si vous en avez l'opportunité, comme dans l'exemple tout à l'heure de la plaine de jeu, sur le moment même, et vous tapotez pendant que l'enfant vous raconte. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi, je veux dire, un peu mettre l'église au milieu du village, quoi, temporiser les choses. Un autre moment qui est propice, c'est avant la mise au lit, qui est un moment où l'enfant peut raconter ce qu'il tracasse et ne pas s'endormir avec ça, ou en tout cas s'endormir avec ça qui fait son chemin autrement.
Oui.
Vous pouvez aussi créer un rituel. Comme vous vous brossez les dents deux fois par jour, eh bien vous choisissez un moment privilégié dans la journée, plutôt en fin de journée en général, où l'enfant va raconter ce qui s'est bien passé et ce qui n'a pas été dans sa journée. Comme ça, vous évacuez au fur et à mesure ce qui peut le tracasser. Un autre moment, c'est avant les devoirs. Je sais pas si vous dites comme ça en France. Oui.
Si.
Ok. Donc, qu'un drôle de mot d'ailleurs, entre parenthèses.
Oui.
Devoir scolaire. Bref. Et donc, si vous tapotez juste avant, ça permet à l'enfant d'augmenter sa concentration et sa présence pour les exercices qu'il a à faire et d'apaiser éventuellement les « j'y arriverai pas, c'est trop dur, j'ai pas envie ». Vous permettez à ça de couler. Alors, l'enfant entre plus facilement dans ce qu'il a à faire. Et vous pouvez aussi tapoter, mais en dehors de l'événement, hein, si, je sais pas moi, il est tombé au matin à l'école, il a eu très peur, ben, le soir il vous le raconte, et vous lui faites repasser le film.
Oui, vous, c'est pas parce qu'on n'était pas là au moment où ça s'est passé, oui. Rien n'est perdu, on peut le faire plus tard.
Absolument. Et puis, vous pouvez aussi tapoter quand tout va bien, pour rentrer quelque chose de positif. Donc ça, ça va un événement important, ça va le dynamiser, augmenter sa confiance en lui. Et dans ce cas-là, les phrases prononcées seront exclusivement positives. Hein. Si je suis un super petit bonhomme, je vais bien m'amuser, je vais rencontrer plein de gens. Enfin, bref, verbaliser ce qui va se passer. Pour ancrer les choses positives.
D'accord. Et en EFT, on a l'habitude d'utiliser une échelle d'évaluation. Souvent, c'est entre 0 et 10 ou entre moins 10 et plus 10. Comment tu vois ça avec les enfants qui ne savent peut-être pas encore compter?
Oui. Sauf qu'ils ne savent pas compter ou bien ça ne veut pas dire grand-chose pour eux.
Oui, même s'ils savent compter, ils ne sont pas forcément ouverts à ce modèle, ouais.
Et voilà. Alors on peut prendre, de nouveau on va faire appel à l'imaginaire, on peut prendre la taille d'un animal. Par exemple, j'ai peur comme un éléphant, ou je suis fâchée comme un lion. Ou bien, j'ai mal de la taille d'une souris. Hein, donc c'est vraiment la taille d'un animal. Et l'enfant, dans sa perception, il va donner des exemples. On peut aussi prendre la distance. Par exemple, un enfant va dire, j'ai peur d'ici, c'est-à-dire de là où il se trouve, à la porte de ma chambre. Ou bien, j'ai peur d'ici au Canada. Hein, ou à une référence que lui connaît. J'ai peur d'ici jusqu'à l'école. Ça va montrer l'ampleur de son émotion. On peut aussi leur faire montrer entre leurs mains la taille de ce qu'ils vivent. Donc, si les mains sont jointes, ben, si tout va bien, c'est l'équivalent du zéro. Et si les mains sont très écartées, pardon, eh bien là, c'est voilà, ça vous montre l'ampleur de ce qu'ils ressentent. Une autre façon de faire aussi, peut-être un peu plus abstraite, c'est l'échelle du blanc au noir. C'est-à-dire, le blanc, c'est très clair et c'est tout va bien, c'est l'équivalent du zéro. Et le noir, très très noir, c'est quand tout va mal. Donc, mais pour ça, il faut que l'enfant ait accès à ce contraste et à toutes les nuances de gris.
Oui.
C'est une façon de faire aussi. Et comme pour les grands, une chose très importante, c'est de leur demander où ça se passe dans leur corps. Est-ce que c'est dans le ventre, est-ce que c'est dans les pieds, dans la tête?
Oui.
Pour faire localiser, pour leur apprendre à prendre conscience de où ça se passe.
Oui. Et je ne sais pas si tu es d'accord, Sabrina, mais moi, dans mon expérience, c'est beaucoup plus facile pour les enfants d'accéder à cette information que pour la plupart des adultes.
Oui, absolument.
La réponse vient tout de suite.
Oui. Ils savent peut-être pas vous dire ce qui se... souvent vous dire ce qui se passe. Ils peuvent pas mettre des mots, mais ils savent très clairement vous dire ça se passe là dans mon ventre, mais c'est comme une boule chiffonnée, par exemple.
Oui.
Oui, oui, absolument.
Mm-hmm. Et pourquoi c'est si important d'expliquer les choses avec des références qui leur sont propres.
Eh bien, si je prends l'exemple, par exemple, d'une maman qui veut un fils et qui attend une fille, elle va être déçue. Comment peut-on faire comprendre ça à un enfant? Si je parle à un adulte, je vais dire, ben voilà, je préférais une petite fille, mais parce que j'ai déjà un garçon, ou parce que j'ai peur de ne pas savoir m'occuper d'un garçon et c'est différent de moi. Mais un enfant peut difficilement entendre et comprendre que sa maman ou son papa disent « J'ai cru que le ciel me tombait sur la tête, je voulais tellement une fille que quand gynéco m'a dit c'est un garçon, j'ai pris ça comme une mauvaise nouvelle. » L'enfant peut pas recevoir ça. Par contre, tous les enfants vont comprendre la même histoire racontée avec des jouets. Ce qui donnerait à peu près ceci. Imagine que tu as demandé comme cadeau un camion bleu. Tu en rêves, tu l'imagines, tu te vois déjà en train de jouer avec ce camion bleu et c'est génial. Et puis tu déballes le cadeau et boum, c'est un camion rouge. C'est exactement le même que le bleu. Tu peux faire les mêmes trucs avec, il fonctionne aussi bien, mais il est rouge. Eh bien tu vas être déçu ou triste, peut-être même fâché, parce que c'est pas celui que tu attendais ou espérais. Eh bien, ça a été pareil avec toi. J'avais envie d'une petite fille, mais quand le médecin nous a dit que c'était un garçon, j'ai été déçue. Il m'a fallu un petit moment pour me faire à l'idée. Et puis j'ai appris à t'aimer toi, tel que tu es. Donc, imaginez comme ça, avec une référence qui lui est propre, de son âge, de son niveau, l'enfant peut avoir accès à cette compréhension-là. Donc, passer par ces références... Ça, et vous pouvez expliquer ça avec des héros de dessins animés, de films, des jouets, avec ce qui se passe dans la cour de récréation. Alors l'enfant peut vous entendre. Donc c'est pour ça que c'est important d'expliquer les choses de manière à ce qu'ils puissent entendre. Parce que les enfants comprennent beaucoup, beaucoup plus de choses qu'on ne le pense.
Oui.
C'est juste que ils n'ont pas la même... Le même niveau de compréhension, ils ne sont pas branchés sur la même longueur d'onde. Donc, c'est à nous, adultes, de nous mettre sur leur longueur d'onde.
Et justement, comme ils sont tellement connectés à leurs émotions, parfois, il leur arrive de dire des choses très violentes. Comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir tout ce qu'on peut entendre auprès des enfants?
Oui. Alors, à mon sens, tout peut être dit et ressenti. Par contre, il y a la manière et le moment pour dire les choses et ce qui peut être fait ou pas fait. C'est là la distinction à faire. C'est un exemple, si un enfant, par exemple, dit « Je veux tuer mon frère », ou « je ne veux pas qu'il soit ton mari ». Ça peut être reçu très brutalement, violemment par l'adulte. Mais en fait, c'est juste le reflet de la souffrance et de la difficulté de l'enfant. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, plutôt dans la conférence, il faut faire la part des choses entre ce qui est dit, donc ce qu'exprime l'enfant, et comment moi, adulte, je le reçois. Et est-ce que cela réveille chez moi? Je vais donner un exemple qui est tout tout récent. J'étais à table avec mon fils et mon mari, et on parlait de clonage. Et Hugo avait très envie d'avoir des clones, plusieurs clones de lui. Et quand je lui ai demandé ce qu'il ferait avec, il m'a dit « Oh ben, il y en aurait un qui toucherait tes seins, un qui t'embrasserait. » Bon, moi j'ai éclaté de rire, mon mari aussi. Et tout d'un coup, Oedipe qui s'invite à la table,
ouais. Hein,
il est encore en plein là-dedans.
Ouais.
Comme mon corps se transforme pour le moment, ça réveille d'autant plus de choses chez lui. Alors je lui ai expliqué que c'était ok pour moi qu'il dise cela et qu'il le pense, que c'était quelque chose de normal, que tous les petits garçons avaient ce genre de pensée pour leur maman, mais par contre que c'était absolument interdit et contre nature en effet, qu'il pouvait penser ça, pour moi c'était ok, mais que jamais il ne pourrait m'embrasser sur la bouche ou que venir toucher mes seins, c'était plus le moment, quoi. C'était pas comme ça entre une maman et un fils.
Mmh.
Et donc, à la fois, j'ai dit, ok, c'est normal ce que tu peux dire, ressentir. Donc, je l'ai autorisé à ces pensées-là. Et en même temps, c'est pas question. Donc, il y a les deux qui sont là. Parce que j'aurais pu être choquée si j'ai moi vécu d'inceste ou d'attouchement, ça peut venir très fort me choquer dans mon histoire. Or, c'est bien deux choses différentes, ce que dit l'enfant et comment moi je le reçois.
Oui.
Donc ça, c'est pour moi une des clés, c'est de pouvoir avoir ce recul-là. Et sur le moment, c'est pas toujours évident avec les enfants. Dans le flot de la vie.
Mm.
Et si vous n'y arrivez pas sur le moment même, ben, c'est pas grave. C'est juste, vous y viendrez après, vous pouvez le dire à l'enfant après, mais c'est de demandez-vous, ok, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train d'exprimer? Ça, c'est une chose, et qu'est-ce que j'en fais, moi? Et puis, qu'est-ce que ça me fait à moi?
Mm-hmm.
Et alors, ça, c'est votre responsabilité de prendre soin de ce qui se passe chez vous.
Oui.
Hein? De ne pas donner ça à l'enfant.
Oui.
Voilà.
Et qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant qui refuse de se tapoter?
Ah, alors, la première chose à faire, c'est de l'accepter. Et je souris très fort en disant ça.
Oui.
C'est un exemple d'un moment où je n'ai pas du tout respecté ça chez Hugo et il a très clairement montré que c'était pas, que je m'y prenais mal. Donc, si un enfant refuse de tapoter, mais acceptez-le. C'est son droit le plus strict, comme un adulte pourrait refuser. Alors, vous pourriez imaginer que vous tapotez sur l'enfant, mais certains enfants ils ne sont pas d'accord, et en plus, vous ne respectez pas le désir de l'enfant. Alors, je vais donner deux exemples très caractéristiques. Le premier, Hugo était tout petit, il était très en colère, et il était assis par terre en train de pleurer. Il devait avoir 2 ans et demi et 3 ans. Il était en colère, il ne voulait pas se laisser approcher pour que je le tapote. Donc, je me suis assise à 2 mètres de lui à peu près, une distance respectable, et j'ai tapoté sur moi en silence, sans rien dire, juste pour laisser couler d'abord ce qui se passait chez moi, et puis pour lui montrer le mouvement, puisque il connaît le EFT avec moi depuis qu'il est né. Hein. Eh bien, au bout de quelques minutes, il est venu dans mes bras et il a mis mes doigts sur sa tête pour montrer c'est ok maintenant. Donc tu peux me tapoter. Et puis il s'est calmé très vite. Donc là, c'est une façon de faire, c'est de vous mettre à distance de l'enfant et vous tapoter. Et puis il y a quelques semaines, il a refusé que je le tapote et moi je l'ai obligé. Alors, en fait, il était très contrarié parce que j'avais éteint la télévision et qu'il voulait encore la regarder. Donc, il ne parvenait pas à se calmer, il tapait des pieds, il achetait ses lunettes par terre. Hein. Vous imaginez un enfant de 6 ans, un sacré tempérament, qui est pas d'accord. Mm-hmm. Je suis restée calme un moment, et puis, j'en ai eu marre, et je lui ai dit de venir près de moi et qu'on allait tapoter. Et j'étais moi-même très fort énervée de sa réaction. Et j'ai voulu bien faire. En plus d'être maman, je suis thérapeute, donc je cumule. Et je me suis dit, bon, ça va aller, je vais lui faire du bien. Parce qu'en général, il est preneur, hein, de l'EFT. Donc, je me dis, allez, je suis sûre que ça va lui faire du bien. J'en ai marre de son comportement. Allons-y. Eh bien, Hugo, qui est d'habitude très réceptif, il a complètement saboté le truc. Il voulait pas répéter, il répétait le contraire de ce que je disais. C'était affreux. Finalement, je l'ai mis au lit, parce que quand même, au bout de la première ronde, il se frottait les yeux. Donc, je voyais quand même que ça avait un impact. Mais il était vraiment, il sabotait le bazar. Je me suis dit, bon, ok, tu vas au lit, et tu pourras redescendre quand tu seras calmé. Il a pleuré quelques minutes, et puis il a dormi 2 heures. Et quand il s'est réveillé, il s'était redevenu un ange. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai pas respecté, moi, sa non-envie de tapoter. Il voulait pas être aidé avec de l'EFT, il avait juste besoin de cadre. Et si je schématise, il avait juste besoin d'une maman qui dise « Je suis pas d'accord avec ton comportement, et voilà la limite que je te mets. Mm-hmm. » Il n'avait pas besoin de la thérapeute qui commence à le tapoter. Donc là, ça a été une grande leçon pour moi. Et d'ailleurs, je lui ai dit après, « Tu sais, je suis désolée, je t'ai forcé à tapoter alors que tu n'avais pas envie. Je ne t'ai pas respecté, je ne le ferai plus. » Donc, j'ai fait 2 erreurs. Je l'ai forcé, ça n'a servi à rien. Et en plus, j'étais moi-même énervée par sa réaction. Donc, je ne pouvais pas l'accompagner correctement. Mmh. Donc, un enfant qui vous dit non, eh bien, c'est à respecter. C'est à respecter, voilà.
Oui. Maintenant,
ce qui peut se passer, c'est par rapport à son refus, c'est de revenir à vos émotions. Qu'est-ce que cela vous fait qu'il vous dise non alors que vous pensez que ça peut l'aider ou que vous faites ça avec une bonne intention? Et vous pouvez verbaliser ce que ça vous fait en tapotant. Parce que ça montre à l'enfant non seulement qu'il peut refuser le tapotement, et ça lui montre que l'adulte prend soin de ses émotions. Donc vous lui montrez le chemin pour prendre soin de ce qui se passe chez lui. Les enfants apprennent par mimétisme, donc vous leur faites un cadeau en vous servant de, voilà, ils refusent de tapoter.
Mmh. D'accord. Alors, tu nous avais parlé d'un exercice, tu vas nous montrer comment faire de l'EFT avec un bébé qui ne sait pas parler.
Absolument. Alors, on va d'abord tapoter sur soi pour un bébé donc qui ne parle pas. Et donc, je vous invite à faire la ronde en même temps que nous. Donc, je vais dire les phrases et vous allez répéter après moi. Donc, point karaté. Même si je ne sais pas quoi faire pour t'aider.
Même si je ne sais pas quoi faire pour t'aider.
Je m'aime.
Je m'aime.
Même si je ne sais pas ce que tu as, que je ne comprends pas.
Même si je ne sais pas ce que tu as et que je ne comprends pas.
Je m'accepte comme je suis.
Je m'accepte comme je suis.
Même si je m'en veux de ne pas deviner ce qui se passe pour toi.
Même si je m'en veux de ne pas deviner ce qui se passe pour toi.
Je m'aime et je t'aime.
Je m'aime et je t'aime.
Dessus de la tête, je ne sais pas quoi faire.
Je ne sais pas quoi faire.
Début du sourcil, je voudrais t'aider, mais je ne sais pas.
Je voudrais t'aider, mais je ne sais pas.
Coin de l'œil, je ne sais pas ce que tu as.
Je ne sais pas ce que tu as.
En dessous de l'œil, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.
En dessous du nez, je me sens impuissante.
Je me sens impuissante.
Sur le menton, je m'en veux de ne pas deviner.
Je m'en veux de ne pas deviner.
Clavicule, je m'en veux.
Je m'en veux.
En dessous des bras, à quoi bon m'en vouloir?
À quoi bon m'en vouloir?
Sous les seins, je fais ce que je peux.
Je fais ce que je peux.
Je ne peux pas tout deviner.
Je ne peux pas tout deviner.
sommet de la tête. Je ne sais pas ce que tu as.
Je ne sais pas ce que tu as.
Début du sourcil. Je me sens inconfortable avec ça.
Je me sens inconfortable avec ça.
Coin de l'œil, mais je suis là.
Mais je suis là.
En dessous de l'œil. Et je t'aime.
Et je t'aime.
En dessous du nez, tu n'es pas seule.
Tu n'es pas seule.
Sur le menton. Je suis là et je veille sur toi.
Je suis là et je veille sur toi.
Clavicule. Peut-être que tu as froid.
Peut-être que tu as froid.
Ou faim.
Ou faim.
En dessous des bras. Peut-être que tu as mal quelque part.
Peut-être que tu as mal quelque part.
En dessous des seins. Je ne sais pas et je t'aime.
Je ne sais pas et je t'aime.
Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Et j'ai envie de dire, c'est la base. C'est l'adulte qui verbalise ce qui se passe.
Oui.
Une autre façon de faire, c'est de le faire pour l'enfant. Que ce soit un enfant qui a quelques années, que ce soit un enfant qui ne parle pas, ou même un bébé, ou même un prématuré. Alors là, en tant qu'adulte, on va dire, on va prendre ici le, on va imaginer que c'est une petite fille qui s'appelle Héloïse, c'est de prendre un instant pour se dire, ok, je le fais pour Héloïse.
Mm-hmm.
Je suis Héloïse. Et on peut déjà dire ça en se tapotant le poing karaté. Je le fais pour Héloïse.
Je le fais pour Héloïse.
Je suis Héloïse.
Je suis Héloïse.
Même si je pleure beaucoup.
Même si je pleure beaucoup.
Et que je suis toute rouge.
Et que je suis toute rouge.
Je m'aime.
Je m'aime.
Même si je n'arrive pas à me calmer.
Même si je n'arrive pas à me calmer.
Je m'aime.
Je m'aime.
Et maman aussi m'aime.
Et maman aussi m'aime.
Sommet de la tête. Je pleure.
Je pleure.
Dessus, début du sourcil. Je pleure fort.
Je pleure fort.
Coin de l'œil. Je crie.
Je crie.
En dessous de l'œil. Je hurle.
Je hurle.
En dessous du nez. Je suis toute rouge tellement je pleure.
Je suis toute rouge tellement je pleure.
Sous le menton. Je n'arrive pas à me calmer.
Je n'arrive pas à me calmer.
Clavicule. Même si je pleure, je m'aime.
Même si je pleure, je m'aime.
En dessous des bras. Maman est là et elle m'aime.
Maman est là et elle m'aime.
Sous les seins. Je libère et je lâche ce qui me fait pleurer.
Je libère et je lâche ce qui me fait pleurer.
Voilà. Donc ça, c'est, vous vous mettez à la place de l'enfant.
Mm-hmm.
Et vous dites ça simplement, ce qui se passe. Même si vous répétez, j'ai envie de dire, sur chaque point, je pleure, ou je... Voilà, j'ai l'air pas...
Oui, parce que c'est peut-être la seule information qu'on a. Donc, voilà. Utilisons ce qui est là.
Voilà. Mm-hmm. C'est juste, si vous ne savez juste que, ben voilà, l'enfant pleure, ou il a l'air tout rouge, ou je ne sais pas, prenez juste ce qui est là et répétez la même phrase, juste pour faire couler l'énergie.
Mm-hmm.
Et vous êtes en connexion avec l'enfant de toute façon.
Oui.
D'autant plus si vous êtes la maman ou le papa, mais même si vous êtes un adulte, et du moment que vous pensez à l'enfant et que vous avez eu l'intention au départ, comme on l'a dit, hein, je le fais pour Héloïse,
oui.
Et à la fin de la ronde, pensez à reprendre vos chaussures, donc à dire, ok, maintenant je suis moi.
Oui.
Ça, c'est important aussi.
Mm-hmm. Et il n'est pas nécessaire d'être en présence de l'enfant quand on fait ça.
Alors, on peut aussi faire l'exercice à distance. C'est-à-dire que l'enfant, soit n'est pas près de vous, mais vous ne pouvez pas l'approcher, ou même s'il est dans un autre pays. Alors, vous allez... si je prends un exemple... Un enfant qui est chez ses grands-parents et vous appelez pour voir si tout va bien. Et justement, il est en larmes parce qu'il vient d'avoir eu peur d'une araignée.
Mmh. Donc,
vous imaginez l'enfant devant vous et vous tapotez devant vous comme si vous tapotiez sur l'enfant. Ou bien vous l'imaginez, comme je disais tout à l'heure, l'enfant sur vos genoux et vous mettez donc un bras autour de ses épaules ou un bras autour de sa taille, et avec l'autre main, vous imaginez que vous tapotez sur les points de la ronde.
Oui.
Et donc, on va faire une ronde comme ça. Vous imaginez un enfant devant vous ou sur vos genoux, comme c'est le plus confortable pour vous.
Mm-hmm.
Et là, on va le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, sans passer par le même si. On va juste tapoter les points de la ronde. Donc, on commence au sommet de la tête. Tu as eu très peur.
Tu as eu très peur.
Début du sourcil. Tu pleures.
Tu pleures.
Coin de l'œil. Tu as eu peur de l'araignée.
Tu as eu peur de l'araignée.
En dessous de l'œil. Cette grande peur.
Cette grande peur.
En dessous du nez. Tu pleures et c'est ok.
Tu pleures et c'est ok.
Sous le menton. C'est ok de pleurer.
C'est ok de pleurer.
Et maintenant c'est passé.
Et maintenant c'est passé.
L'araignée est partie.
L'araignée est partie.
Dessous les bras, tu peux respirer calmement.
Tu peux respirer calmement.
C'est passé, c'est terminé.
C'est passé, c'est terminé.
Sous les seins. Et si tu veux.
Et si tu veux.
Lâche la peur.
Lâche la peur.
C'est passé, c'est terminé.
C'est passé, c'est terminé.
Voilà, donc c'est une autre façon de faire. Et de nouveau, faites les choses simplement par rapport à ce que vous savez de la situation.
Mmh.
Et autant que faire se peut, sans avoir l'intention de guérir ou d'enlever ce qui se passe dans la vie de l'enfant. Je dis bien tant que faire se peut, parce qu'en général, quand on fait ça, c'est bien qu'on veut aider l'enfant.
Mmh.
Mais ça ne nous appartient pas de décider si l'enfant va lâcher ou pas.
Oui.
On peut juste initier le mouvement, faire couler l'énergie sur le sujet et inviter à, hein, comme dans la dernière phrase, j'ai dit, et si tu veux, lâche la peur.
Mmh.
Pour laisser quand même le libre arbitre à l'enfant.
Oui, et ne pas le mettre en échec aussi s'il sent que « mais je peux pas lâcher la peur ».
Oui, voilà.
Donc,
parce que c'est vrai, hein, il y a des enfants qui ne... À certains moments, qui n'ont pas la clé, qui ne savent pas ou qui ne veulent pas. Je me souviens d'un enfant en consultation qui était en colère sur son petit frère. Et au départ, il ne voulait pas. Il voulait lâcher la colère, il voulait absolument la garder. Donc, ok, on a fait une ronde ou deux sur... Pardon. Je veux garder ma colère, il n'est pas question que je la lâche. Je me sens en colère et j'ai raison de l'être et pour qu'il puisse verbaliser. Après, il a lâché. Mais... Donc, laisser toujours le libre arbitre à l'autre, à l'enfant, de lâcher ou pas.
Oui. Alors, un dernier petit mot pour l'EFT avec les enfants et les parents.
Ah, un seul. J'ai envie de dire, soyez un modèle pour vos enfants. C'est-à-dire, apprenez à verbaliser vos propres émotions. C'est comme ça que les enfants vont apprendre à nommer les leurs, à pouvoir dire, je me sens fâchée, j'ai de la colère. Et souvenez-vous que les enfants sont sur la planète imaginaire. Et donc, soyez souple quand vous faites l'EFT avec eux. Ne cherchez pas la recette de base absolument. Soyez vraiment dans l'instinct et dans l'instant. Donc, suivez le fil avec l'enfant. Il va vous emmener là où c'est bon pour lui. Et vous verrez que chez les enfants, ça va très très vite. Donc, quand c'est passé, quand c'est réglé, il va vous dire, ah, c'est bon, allez, arrête, c'est ok. Donc, voilà. Suivez le guide, j'ai envie de dire.
Oui. Super, merci beaucoup Sabrina pour toutes ces pistes. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions. On va ouvrir le chat et dans quelques instants, Sabrina pourra répondre à vos questions.